France Culture.
À voix nue, production Corinne Renoux-Nativelle, cette semaine avec...
Delphine de Vigan, je veux dire romancière cette fois, j'aime bien ce mot aussi.
Bonsoir Delphine de Vigan.
Bonsoir Corinne.
Hier nous avons évoqué vos débuts d'écrivaine, votre détermination à écrire envers et contre tout. Nous poursuivons avec votre écriture sur vous et sur le monde. Dans vos deuxième et troisième romans, Les Jolis Garçons et Un soir de décembre, il est question d'écrivain à succès. Comment vivez-vous le succès quand il surgit pour votre roman suivant, Noé et moi, paru en 2007 ?
Je le vis comme comme un cadeau, comme une formidable surprise, comme une incroyable aventure. Je ne me représentais absolument pas le succès. C'est pas quelque chose dont j'avais rêvé, c'est-à-dire que je n'avais même pas eu le temps quelque part, mais pourtant c'était mon quatrième livre. Et j'étais déjà tellement heureuse de publier. C'est vraiment pas quelque chose que j'avais imaginé. Donc ça n'est que surprise et découverte.
C'est d'autant plus étonnant qu'il y avait ces deux figures d'écrivains à succès dans vos deuxième et troisième livres.
Oui, enfin c'est effectivement. Alors en effet, c'est à la fois dans le deuxième, je vous ai raconté pourquoi hier avec cette figure de Martin Winkler qui avait un peu inspiré le texte. Le troisième, c'est une rencontre amoureuse qui était d'ailleurs en partie autobiographique avec un écrivain à succès, mais ça n'était pas moi l'écrivain à succès.
D'accord. Après Jour sans fin, à partir de votre expérience de l'anorexie, vous revenez à une veine autobiographique. Dans Rien ne s'oppose à la nuit, en 2011, vous racontez la bipolarité de votre mère, son suicide, la tribu maternelle. Vous avez parlé d'un livre fantôme que vous portiez en vous. Pourriez-vous nous expliquer ce qui vous conduit à l'écrire ?
C'est un texte que j'ai vraiment essayé d'éviter parce que, au fond, je crois que je le portais aussi d'une certaine manière et que le désir d'écrire sur ma mère et sur ma famille, sur cette famille que je vous décrivais l'autre soir, très fantasque, incroyable, avec cette vitalité, cette pulsion de vie incroyable. Il y avait longtemps que j'avais envie de l'écrire, même avant le décès de ma mère. Et, probablement le fait que ma mère se suicide, je crois aussi le fait d'avoir découvert moi-même son corps, la violence de ce moment, de cette image, etc. D'une certaine manière, c'est comme si ça avait fait sauter un verrou, c'est-à-dire que quelque part, c'est ce qui peut-être m'a autorisée à le faire. Mais j'ai encore lutté assez longtemps, c'est-à-dire que pendant voilà, je me disais non, ça me faisait peur, le sujet me faisait peur, j'avais peur aussi de ne pas y arriver, etc. Donc il s'est passé assez longtemps finalement, enfin un petit moment avant que je me lance dans l'écriture d'un roman. Et c'est surtout le jour où j'ai compris que si je n'écrivais pas ce texte, je n'écrirais pas autre chose. Que je m'y suis mise, parce que j'avais vraiment le sentiment que mon parcours d'écrivain passait par là, que je devais quelque part en passer par là, que de toute façon, la figure de ma mère, les souvenirs liés à elle hantaient suffisamment mon travail comme ça, et que tant que je ne l'aurais pas empoigné, je ne pourrais pas aller plus loin. Et je cherchais des idées de romans, je commençais vaguement des choses, et puis rien ne m'intéressait au fond, rien d'autre ne m'intéressait à ce moment-là que de tenter de raconter cette histoire et de tenter de m'approcher d'elle.
Et pourquoi alors, Delphine de Vigan, présentez-vous Rien ne s'oppose à la nuit comme un roman ?
C'est un roman parce que, et ça c'est vrai que je l'ai souvent dit et réaffirmé, parce que malgré tout, j'avais parfaitement conscience en l'écrivant à quel point l'acte même d'écrire, qu'on le veuille ou non, est une fabrique de fiction. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je raconte à la fois d'ailleurs des choses que je n'ai pas vécues, puisque j'y raconte l'enfance de ma mère dans cette fratrie que nous évoquions à l'instant, et à la fois des souvenirs qui sont davantage mes propres souvenirs, dans les deux cas, je suis obligée quelque part de réinventer quelque chose, en tout cas de combler des trous, de combler des manques. Ce n'est que ma vision des choses, c'est-à-dire quand je le raconte dans le roman, et ça fait vraiment partie aujourd'hui du texte, comment s'élabore le texte, c'est-à-dire à partir de versions différentes qu'on vous raconte d'un même événement, comment on en choisit une et pourquoi on en choisit une. Et au fond, il s'agit de mon regard, à la fois, je crois, de petite fille d'ailleurs, de jeune fille, de jeune femme, de mère, tous ces regards que j'ai portés sur ma mère se sont conjugués pour arriver à ce texte, qui est évidemment éminemment subjectif et personnel. Et c'est forcément du roman pour moi. Il y a pas de, on ne peut pas atteindre, qu'on le veuille ou non, parce que c'est, je peux même pas vous dire que volontairement je me suis éloignée de la vérité. Non, au contraire, j'ai cherché la vérité. J'ai cherché à être au plus près de la vérité. C'est d'ailleurs la seule fois que j'ai travaillé comme ça, à chercher vraiment à m'approcher au plus près d'elle, de ce qui avait pu se passer, de ce qui pouvait expliquer la fragilité psychique qui a été la sienne, des événements de son histoire familiale, de la nôtre. Mais malgré tout, je ne peux évidemment pas dire c'est la vérité. Et pour moi, le récit, c'est quand, enfin, je ne pouvais pas appeler ça un récit. Il y a une part de romanesque indépendamment de ma volonté.
Mmh. Et dans D'après une histoire vraie, votre livre suivant, vous jouez avec habileté et même une certaine rouerie avec le réel et la fiction, c'est justement un pied de nez au lecteur qui attendait ce livre fantôme.
En tout cas, c'est vrai que je me suis abusée de ça, parce que elle, ce personnage que Delphine, la narratrice, rencontre, lui parle de ça. Oui, c'était un pied de nez, en tout cas un contre-pied. Et ça n'est pas la première fois, parce que finalement, quand je me retourne un petit peu sur mon travail, je me rends compte que j'ai un petit peu cette tendance à prendre le contre-pied. Mais ce sont des choses que je peux me formuler après à moi-même. Ça n'est pas forcément conscient au moment où je le fais. Mais là, en l'occurrence, oui, ça l'était. C'était conscient, c'est-à-dire que j'avais tellement entendu, quand j'ai accompagné Rien ne s'oppose à la nuit, en librairie, etc., dans les festivals, les gens qui me disaient « Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout est vrai ?» Est-ce qu'il s'est passé ci? Est-ce qu'il s'est passé ça? Des gens, souvent très, très bouleversés par le texte. Et je me disais, mais finalement, le serait-il autant si je ne l'avais pas, si je n'avais pas dit que c'était l'histoire de ma mère? Qu'est-ce que le réel a de plus que la fiction? Toutes sortes d'interrogations. Et puis, beaucoup de lecteurs qui parfois me disaient, mais qu'est-ce que vous allez écrire après ça? Comme si c'était forcément l'aboutissement de quelque chose. C'est vrai que je pense que c'est un texte qui est clair, sans doute à la fois d'ailleurs mes précédents livres et les suivants, comme peut-être chaque écrivain a un texte comme ça qui éclaire l'ensemble de son travail. Mais moi j'espérais quand même continuer à écrire après ça, comme on me disait. Donc j'ai pris un peu le contre-pied, je me suis amusée, c'est un bien grand mot, parce que D'après une histoire vraie, c'est un texte qui a été très très difficile à écrire, pour lequel j'ai été vraiment complètement envahie par le doute. Mais voilà, c'était effectivement une manière de prendre le contre-pied et surtout d'interpeller le lecteur en disant « Mais est-ce que c'est si important que ça soit vrai ? Pourquoi aujourd'hui ça devient un argument de vente, un argument commercial de dire d'après une histoire vraie ? De quelle vérité on parle ?»
Vous avez été directrice d'études dans un institut de sondage, Delphine de Vigan, vous nous en avez parlé. Est-ce que ce travail a un lien d'une façon ou d'une autre avec la dimension sociétale de beaucoup de romans ? On peut citer Noé et moi, Les heures souterraines, Les loyautés, Les enfants sont rois.
Je dirais plutôt l'inverse. C'est quelque part parce que j'ai une préoccupation sociétale que j'ai exercé ce travail. Quand je travaillais en entreprise, c'était vraiment de m'intéresser à la vie des entreprises, des organisations. Je l'ai abordé, ce monde du travail, je l'ai abordé dans Les heures souterraines et plus tellement par la suite. Mais en revanche, je pense que ça fait vraiment partie de moi, le fait d'avoir travaillé 20 ans en entreprise, d'avoir connu cette vie-là, la machine à café, les rapports avec les collègues, les histoires de solidarité, de rivalité, de promotion, de salaire, d'augmentation, toutes ces histoires-là, ça fait partie de moi.
Dans Les enfants sont rois, vous évoquez les enfants influenceurs. Dans Je suis Romane Mounier, paru en 2026, vous montrez avec acuité à quel point toutes nos existences peuvent se lire dans nos smartphones. Avez-vous la volonté de refléter notre époque, de tendre un miroir à vos contemporains, Delphine de Vigan ?
Oui, sans doute. Oui, c'est vrai. Mais déjà, peut-être avant tout moi-même de la comprendre. Et là aussi, comme je vous le disais hier, d'essayer de la comprendre, de la nommer, de la décrire. de mesurer de comprendre tous les tenants et aboutissants dans l'époque qui est la nôtre, ce rapport au, là où, une fois encore, ce rapport à la vérité d'ailleurs, hein, qui me semble très important. C'est peut-être d'abord parce que ça me questionne moi, voire que parce que ça m'angoisse, que j'ai envie d'écrire là-dessus et de le comprendre. Quand j'écris Les enfants sont rois, c'est parce que je suis tellement heurtée par une image, un reportage qui montre des enfants influenceurs. Je n'avais jamais entendu ce mot, je ne savais même pas que ça existait. Ensuite, je me dis mais c'est fou ce que ça raconte de l'époque, de cette espèce d'apologie complètement décomplexée de la consommation, de ce besoin d'exister à tout prix sur les réseaux sociaux, l'exposition des enfants, tout ça. Voilà, c'est d'abord parce que ça me heurte moi-même que je tente d'écrire là-dessus.
Comment choisissez-vous vos sujets, Delphine de Vigan ? Chaque fois, c'est un phénomène qui vous heurte ?
Oui, en tout cas, souvent quelque chose qui soit qui vient de moi-même et qui rencontre quelque chose en tout cas de il est question d'un mouvement entre le dehors et le dedans. Soit c'est quelque chose qui m'occupe moi-même et qui rencontre un phénomène ou une image extérieure, soit et que je vais aller chercher sans doute parce que ça me préoccupe, soit à l'inverse je suis extrêmement heurtée par une image extérieure qui me semble pouvoir raconter l'époque, en tout cas qui me semble symptomatique de l'époque, et à ce moment-là ça entre sans doute en résonance avec quelque chose d'intime que je n'identifie pas d'ailleurs assez souvent. Et je me mets à écrire, et c'est dans le process de l'écriture où parfois, une fois que le roman est publié, je me dis « Ah, mais en fait, c'est pour ça. C'est pour ça que j'écris ça. C'est, au fond, il est de nouveau question de ça. » Ou parfois des lecteurs me disent « Ah, mais finalement, dans tel livre, vous parlez une fois encore de telle et telle chose. » Et oui, je m'en suis à peine rendu compte. C'est-à-dire que le point de départ du roman, il est assez rarement le point d'arrivée. Et la raison peut-être qui me met au travail, c'est pas forcément celle que je vais expliquer une fois que le livre est fini ou celle que je vais être en mesure de défendre. Il y a toujours quelque chose de très mystérieux pour moi dans la genèse de l'écriture, qui reste très mystérieux. Et d'une certaine manière, je souhaite que ça le reste. C'est-à-dire que je pense que si j'étais capable de le décrire complètement, j'aurais le sentiment d'ouvrir la boîte noire et de prendre le risque que quelque chose dans le mécanisme s'enraye. J'aime bien cette idée du mystère, de pourquoi à un moment donné on se met au travail, pourquoi à un moment donné la machine se met en route, pourquoi c'est complètement dingue en fait quand on y pense de passer des heures devant un ordinateur ou une feuille de papier en se disant qu'on va écrire quelque chose qui va intéresser d'autres gens et qu'on a quelque chose d'important à raconter. Moi quand j'écris, je me dis ça, je me dis j'ai quelque chose d'important à raconter. Et bah, c'est un peu fou quoi, en réalité, mais voilà, c'est là que ça se passe. Et le sujet que je crois, parce que j'aime pas trop cette idée de cette notion de sujet, mais en tout cas les images, les thèmes que j'ai l'impression de brasser, d'embrasser, souvent ne sont pas tout à fait ceux finalement que le roman contient. En tout cas, le roman contient presque toujours un motif caché qui m'apparaît un peu plus tard.
Certains écrivains se mettent devant leur ordinateur avec un début de roman sans savoir où ils iront, et d'autres construisent tout en amont. Quelle école appartenez-vous, Delphine de Vigan ?
Ah bah clairement à la seconde. C'est vrai que je suis très fascinée parce que j'ai en plus un ou deux amis écrivaines en l'occurrence qui travaillent comme ça. Commence un livre sans même savoir de quoi ça parle. Moi j'ai plusieurs mois, parfois même un an de genèse, de préparation, voire de documentation. Plus ou moins utile d'ailleurs, parce qu'au fond, parfois, il m'arrive de collecter des tas de trucs qui ne me serviront à rien. Mais je construis beaucoup. J'ai toujours une idée assez précise de l'architecture du texte. Alors, ça ne veut pas dire évidemment que le texte ne peut pas m'emmener ailleurs. Et bien sûr que ça arrive, et heureusement que ça arrive. Mais j'ai toujours, oui, une idée assez précise de comment ça commence, comment ça se poursuit, comment ça se termine.
Delphine de Vigan, vous dites que être à la hauteur est la problématique de votre vie. À la hauteur de quoi ? Et est-ce que le succès a augmenté cette hauteur ?
Ah, je me souviens pas d'avoir dit ça, c'est intéressant parce qu'en plus, en ce moment, je réfléchis beaucoup à ça. Être à la hauteur de quoi, c'est une bonne question. Je ne sais pas d'où j'ai... Ça revient d'ailleurs peut-être un peu à cette toute première soirée que nous avons passée, de ce qu'on hérite de ses parents. Je ne sais pas d'où j'ai hérité une espèce de sens moral extrêmement fort, une espèce de préoccupation morale, je ne sais pas le dire autrement, très très forte, que j'ai transmise à mes enfants d'ailleurs. Et probablement que ça vient de mes parents et de la famille ou de je ne sais pas d'où, mais peut-être être à la hauteur, c'est ça, c'est pouvoir se regarder dans une glace, c'est pouvoir se dire qu'on tient debout, mais bien, qu'on a piétiner personne, qu'on a... ça, c'est assez important, je dois dire, et ça reste important. Comme cette question de la loyauté que j'ai abordée dans les loyautés, là, pour le coup, le livre est vraiment né de cette préoccupation dont je faisais part un jour à mon éditrice, qui était quand même, chez moi, très lancinante, de me dire est-ce que je suis loyale? Est-ce que c'est loyal si je fais ci? Tous ces moments de la vie auxquels on est absolument tous confrontés, de savoir si on dit ci, on dit ça, si on... à la fois on pourrait dire quelque chose qu'on nous a confié, ça aiderait telle ou telle personne, mais en même temps, est-ce que ça ne serait pas la trahir, etc. Toutes ces choses-là, ça m'occupe beaucoup. Je ne sais pas d'où ça vient, je n'ai pas reçu d'éducation religieuse. Je voulais absolument aller au catéchisme quand j'étais petite, mais ma mère ne voulait pas, donc je ne sais pas d'où ça me vient. Ce sens vraiment quelque part du bien et du mal, voilà, c'est peut-être ça, être à la hauteur.
Vous avez publié « Jour sans fin » chez Grasset, vous l'avez dit, puis tous vos livres suivants aux éditions Jean-Claude Lattès. Avant de suivre votre éditrice Karina Hossin chez Gallimard, à partir des enfants son roi en 2021, quel rôle joue-t-elle auprès de vous ?
Ce rôle a évolué sans doute au fil du temps, parce que donc c'est un long compagnonnage et elle a beaucoup évolué, j'ai beaucoup évolué au cours de ces années. C'est un regard qui compte encore beaucoup pour moi. Souvent, on procède en plusieurs temps. D'abord, je lui parle un peu du projet du livre tel que je suis capable de le formuler à un moment donné, c'est-à-dire avant même de commencer quoi que ce soit. C'est comme si je lui racontais un livre fantasmé, un livre rêvé. Je lui dis, ce serait ci, ce serait ça, ça parlerait de ci, ce serait comme ça, sous telle forme, parce que la question, évidemment, de la forme est très importante. Et puis après, souvent, je lui fais lire 15, 20 pages, parfois un peu plus, sur lesquelles elle réagit. À ce moment-là, son retour est très important. Je sais qu'elle le sait, à quel point chaque mot est important. Franchement, je la soupçonne un petit peu à ce moment-là de m'encourager de toute façon, en se disant on verra bien après, mais voilà, il faut qu'elle le fasse avec suffisamment de conviction et d'arguments pour que j'y croie, et pour l'instant c'est le cas. Et ensuite voilà, je lui remets le texte terminé, et là pour le coup ça dépend des romans. Il y a certains livres sur lesquels j'ai à peine retravaillé, d'autres, comme je vous racontais pour Noé et moi, c'est un texte que j'ai entièrement réécrit. Voilà, c'est très variable, mais c'est une formidable éditrice, et son regard compte encore beaucoup pour moi.
Mais vous ne lui faites pas lire votre manuscrit au fur et à mesure, Delphine de Vigan ?
Non, jamais, non.
Quand vous êtes-vous sentie enfin écrivaine ? Je crois que ça n'a pas été immédiat.
Non, ça n'a pas été immédiat, parce qu'en plus j'avais une espèce de complexe ou de sentiment d'illégitimité qui venait du fait d'avoir publié Jour sans fin comme premier roman. Le fait justement, comme je vous racontais, de cette idée que c'était un témoignage, que ça parlait d'anorexie, que c'était un petit peu... Je pense que ça se jouait beaucoup à l'intérieur de moi. C'est pas forcément des choses que des gens m'avaient renvoyées, peut-être une ou deux personnes, mais c'était pas... Oui, ça me donnait une espèce de sentiment d'illégitimité, d'être rentrée par la mauvaise porte et de ne pas pouvoir dire... Et puis, voilà, pour moi aussi, simplement, c'est pas parce qu'on a publié un livre, deux livres, trois livres qu'on est écrivain. On est auteur, objectivement. Donc je pouvais dire je suis auteur. À l'époque, je disais pas encore je suis autrice. Parce qu'objectivement, je percevais des droits d'auteur. C'était un constat. Mais dire que j'écrivais, puis dire je suis écrivain, puis dire je suis écrivaine, c'est vrai qu'il m'a fallu un petit peu de temps. Maintenant, je le dis parce que je me retourne, que j'ai écrit 10, bientôt 11 11 livres et que de fait, ça constitue quelque chose. Je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais en tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a une forme de cohérence dans ce que j'écris, même si mes textes sont très très différents les uns des autres. Comme je vous disais, que j'ai souvent eu le sentiment de prendre le contre-pied du texte précédent. Quand au début, où j'ai commencé un petit peu à être lue, on disait « Ah, formidable, une écrivaine ». Un écrivain, on disait à l'époque, qui aborde des thèmes sociétaux, qui ne parle pas de son papa, sa maman. Ensuite, j'ai écrit un livre sur ma maman. Et puis après, j'ai rencontré un très grand succès avec ce texte. Et probablement, certains autres lecteurs attendaient que je continue dans cette veine autobiographique. Et puis, je suis partie vers autre chose. Là, je suis beaucoup plus dans la fiction depuis quelques temps. Donc, j'ai le sentiment de suivre un chemin, je ne sais pas très bien lequel, mais qui s'impose. Et qui, malgré tout, a une véritable cohérence, en tout cas, dont, la manière dont les livres s'enchaînent, il me semble que ça fait sens. Voilà. En tout cas, pour moi, ça fait sens.
Et Delphine de Vigan, est-ce qu'à un moment, vous avez un sentiment de légitimité ?
Oui, aujourd'hui, oui, je crois que oui, parce que ce serait quand même... un petit peu exagéré de ne pas entendre les retours qui me sont faits, malgré tout, sur mes livres. Oui, aujourd'hui, oui, je dirais que oui.
Est-ce qu'il y a eu des livres plus difficiles à écrire que d'autres ?
Ah oui, oui, ça c'est sûr. Les plus difficiles, ça a été, je vous disais, Les Heures Souterraines, bizarrement, j'étais portée par ce moment un peu incroyable. Ça a été sans doute le texte le plus facile, si ça a un sens à écrire. Les Loyautés, Les Gratitudes, ces textes plutôt qui sont venus comme ça, assez facilement, mais ça, c'est un peu exagéré de le dire comme ça. D'après une histoire vraie, c'est un texte très très difficile à écrire parce que je sortais donc du succès de Rien ne s'oppose à la nuit avec, je le sentais, une très forte attente des lecteurs sur justement cette dimension de continuer dans cette veine autobiographique. Or, je prenais le contre-pied total. Ça n'a pas toujours été compris, mais c'est le cas. Je m'amusais en tout cas de ces codes de l'autofiction et du thriller, etc. Mais j'avais vraiment le sentiment, je l'ai parfois raconté, d'avoir un démon perché au-dessus de mon épaule qui ricanait à chaque phrase que j'écrivais sur l'ordinateur, ce qui est une sensation assez désagréable. C'était vraiment compliqué. Et là, le texte que je viens de terminer, le texte que j'ai terminé, je suis Romane Monnier, c'est un texte qui a été assez difficile aussi à écrire, pour d'autres raisons.
Quand je vous avais rencontré en 2011, Delphine de Vigan, et à l'époque vous écriviez « Rien ne s'oppose à la nuit », et là vous ne l'évoquez pas, mais l'écriture, il me semble, était difficile également.
Oui, c'était « Rien ne s'oppose à la nuit », c'était un texte qui n'a pas été simple, évidemment, à traverser, mais pour d'autres raisons, parce que j'étais tellement dans l'émotion. Finalement, je disais, du temps est passé, mais ce n'était pas si longtemps après la mort de ma mère. J'avais le sentiment d'empoigner et de malaxer un matériau hautement corrosif, explosif. Et puis j'étais sans arrêt submergée par des vagues d'émotions très très fortes au moment où j'écrivais, parce que ça me replongeait à la fois dans des souvenirs qui pour certains étaient les miens, ou dans le chagrin familial que j'avais en plus un petit peu fait ressurgir avec mes interviews. J'ai un peu torturé tout le monde avec ce livre, donc je me retrouvais avec tout ce matériau-là extrêmement compliqué. Mais si vous voulez, dans l'écriture, il y avait un élan, il y avait une, je ne sais pas comment dire d'ailleurs, comment appeler ça. C'est quelque chose qui fait qu'on y est, qu'on y va, que ça avance de toute façon. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce que parfois, le doute est tellement envahissant. Que je peine et je peine surtout à me regarder moi-même, à me relire moi-même et à me juger moi-même. Le pire juge, c'est souvent soi-même.
Et qu'est-ce qui rend « Je suis Romane Monnier » difficile à écrire ?
Là, c'était particulier. C'est un livre que j'avais commencé avant de découvrir que j'ai été malade. J'ai une période un peu compliquée de ce point de vue-là. Et que j'ai dû interrompre une première fois pour subir une grosse opération. Puis, j'ai recommencé. Puis, j'ai dû l'interrompre une nouvelle fois. Disons que j'avais été impactée, physiquement, avec des opérations qui touchaient à la respiration. et dans les deux cas, et que j'ai eu le sentiment d'avoir le souffle coupé au sens propre et au sens figuré. C'est-à-dire que quand je me suis remise au travail, j'écrivais, j'avançais, mais pour le coup, j'étais absolument affligée par ce que j'écrivais. J'avais le sentiment d'être empêchée, d'être bâillonnée, d'être. C'était très étrange. Et j'ai vraiment écrit le texte en luttant en permanence contre ce sentiment un peu d'être asphyxiée. Et bon, j'espère que le texte ne s'en ressent pas.
C'est un grand plaisir de lecture, ce nouveau texte. Annie Ernaux, je crois, Delphine de Vigan vous a prodigué un conseil précieux pour ne pas être écrasée par le succès, pour demeurer fidèle à vous-même.
Oui, elle m'avait dit, je l'avais croisée après la parution de Rien ne s'oppose à la nuit. Et voilà, très gentiment, elle était venue vers moi, on avait échangé sur le texte. Et puis, je lui avais fait part un peu de cette inquiétude est-ce que je vais savoir me remettre au travail, est-ce que je vais pouvoir écrire de nouveau. Et elle m'avait dit quelque chose comme il faut refaire le silence autour de soi et vous retrouverez votre chemin. Et ça m'a tellement aidée, c'est-à-dire que cette idée de refaire le silence, c'est tellement vrai. Parce que quand on publie un texte, on est pris dans une sorte de brouhaha où il y a à la fois ce qu'en disent les critiques, qui est sympa ou qui ne l'est pas, ce que en disent les lecteurs, ce qu'en disent les proches, tout ça, en tout cas pour ma part, je ne sais pas me détacher de ça complètement, en partie mais pas complètement. Et ensuite, il faut oublier tout ça, il faut oublier d'ailleurs ce qu'on a pu dire de formidable et de très élogieux sur le texte. On a pu dire de plus critique, il faut oublier pour retrouver son propre chemin. Et ça, j'y crois beaucoup. C'est toujours, j'en reviens toujours à ça, en tout cas à l'idée de où est ma route, quoi qu'on attende de moi. Où est ma route? Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui me met en mouvement? Pourquoi, à un moment donné, je me remets en route sur un texte? Et souvent, il y a aussi, bien sûr, des questions de forme, d'explorer des formes. Et ça, ça reste pour moi un moteur indéniable d'explorer des formes nouvelles.
Delphine de Vigan, vous avez dit à plusieurs reprises qu'une fois un livre fini, vous ne savez pas si vous pourrez en réécrire un autre. Le ressentez-vous toujours? Comment l'expliquez-vous?
Oui, toujours. Je pense pas être la seule à ressentir ça. Cette espèce de mystérieuse alchimie que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire pourquoi à un moment donné une idée naît, pourquoi elle est suffisamment forte, prégnante pour que quelque chose se mette en route et puis pour ensuite se mettre au travail. En ce qui me concerne, ça veut dire rentrer dans une espèce de discipline de faire, de rendez-vous quotidien avec le texte entre telle heure et telle heure. C'est très obsessionnel, c'est drastique comme discipline. Est-ce que ça va se reproduire? Non, je ne le sais pas. Est-ce qu'à un moment donné, je ne vais pas être paralysée par les doutes qui, jusqu'à présent, ont parfois été sans doute un moteur, mais aussi, par moments, m'ont quand même beaucoup assailli, ralenti? Je ne le sais pas. J'ai plein d'idées de romans, j'ai plein d'envies de romans, j'ai plein de... Oui, d'envie, c'est probablement le terme qui convient le mieux, mais je ne sais pas si je serai capable de les écrire. Je ne sais pas si j'ai le talent pour les écrire.
Mille merci, Delphine de Vigan. À demain pour évoquer vos pas de côté professionnels à l'écran et à la scène. C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, réalisation Luc-Jean Reynaud, prise de son Martin Troadec, une série de Corinne Renoux-Nativelle disponible sur le site et l'application de Radio France.